président. Monsieur le président, mesdames et messieurs, encore aux conseillers généraux, la brutalité de l'annonce de la mise à mort des conseillers généraux par Manuel Valls, puis par le président de la République, nous a choqués tout comme vous, monsieur le président. Déjà l'été 2013, plutôt que d'approfondir le dialogue avec les élus et les citoyens, François Hollande avait fait voter la loi dite d'affirmation des métropoles qui porte en filigrane l'effacement des communes et la disparition des départements. Il donnait ainsi un premier signal fort de recentrage du pouvoir, de remodelage en profondeur de l'organisation territoriale et de l'édifice républicain de notre pays. Au mépris des engagements qu'il avait lui-même pris auprès des élus locaux dans le cadre des états généraux des territoires organisés par le président du Sénat, ceux-ci avaient en effet largement démontré l'attachement très majoritaire des élus locaux à la commune et au département. D'ailleurs, il y a peu, le président François Hollande défendait lui-même l'utilité de cet échelon devant le Conseil général de Corrèze. C'était le 18 janvier dernier. Suppression des conseils généraux, division par deux du nombre des régions, menace à moyen terme sur le nombre et le statut des fonctionnaires, autant de soi-disant remèdes déjà imposés dans plusieurs États membres et qui n'ont fait qu'aggraver les conséquences de l'austérité qui accable les populations. Il n'y a qu'à voir, pour s'en convaincre, ce qu'ont dû subir les Grecs, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais et d'autres encore. C'est aujourd'hui notre édifice républicain, celui des communes et des départements, héritage de la Révolution française, est en danger. Les dirigeants européens voudraient lui substituer le triptyque Europe, Région, Intercommunalité, en créant à marche forcée des espaces de plus en plus grands pour satisfaire la voracité des marchés financiers et du grand patronat, en faisant le choix de l'argent au détriment de celui de l'humain. Cette réforme territoriale est taillée dans le moule d'un capitalisme économique qui conduit à un véritable déménagement des territoires, obéissant à la seule logique de la compétitivité et de l'attractivité des capitaux. Dans ce cadre, c'est la ruralité qui est l'objet des plus lourdes menaces. Le monde rural et ses habitants ont été les premières victimes des politiques de libre concurrence et d'extension du marché, qui ont accentué les fractures sociales et territoriales et cassé les services publics. Et pour les secteurs ruraux en particulier, la suppression de la clause de compétence générale représentera la mort des politiques volontaristes qui faisaient la vie des communes et des associations. Oui, le risque est grand de déstabilisation de notre construction républicaine reposant sur l'égalité de tous, visant à l'équilibre et la solidarité entre les territoires. Le risque est grand, le renforcement de la place des grandes aires urbaines au détriment des autres territoires qui sont, eux, en voie de paupérisation. Le risque est grand, le renforcement de la compétitivité capitaliste et d'une aggravation des fractures de toutes sortes et donc d'une France des territoires à plusieurs vitesses. Pourquoi cette obstination insensée du gouvernement à poursuivre dans des orientations politiques qui amènent le pays vers un désastre social, économique, territorial. En réduisant leur dotation de 11 milliards d'euros d'ici 2017, en annonçant la suppression des conseils généraux, comment redresser l'économie en se privant de l'apport essentiel des départements, des collectivités locales en termes d'investissement? Les politiques départementales sont essentielles pour l'emploi dans le département, dont dans le nôtre. Réduire les dépenses publiques utiles dans un contexte de croissance économique nulle est une aberration, puisque les investissements publics soutiennent l'activité économique et la consommation des ménages. Il est pourtant possible de mener une politique de rupture avec ces logiques, mais pour cela, il faut avoir le courage de taper du poing sur la table. Car pour construire une autre Union européenne, qui mette au premier plan la coopération et les solidarités, cela ne peut passer que par la remise en cause des traités européens. L'acte de vente de la France à l'Union européenne qui a été le traité de Maastricht, l'honneur démocratique qui a été la ratification des traités de Lisbonne, par l'UMP, le Parti Socialiste, contre l'avis majoritaire exprimé par les Français par référendum en mai 2007. Mais envers et contre tout, sourd aux successifs avertissements pourtant cinglants adressés par les électeurs, François Hollande s'engage dans son entreprise de soumission du pays à la logique néolibérale et totalitaire de l'Union européenne. Il est à cet égard aussi révélateur qu'affligeant de le voir reprendre mot pour mot l'argumentaire utilisé par Sarkozy et ses soutiens pour justifier déjà leur projet de démembrement de la nation et d'asservissement à Bruxelles. La même rengaine du millefeuille territorial met le silence sur le fait que les collectivités ne représentent que 10% de la dette publique et 73% de l'investissement public. La même prosternation devant le dogme de la réduction de la dépense publique brandie pour essayer de masquer tous les cadeaux offerts au patronat qui se chiffre à plus de 50 milliards car les dotations aux collectivités locales se voient amputées de 11 milliards d'euros. Avec en prime la suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions, qui les empêchera d'intervenir en soutien notamment de toutes les associations intervenant dans le sport et la culture, l'action sociale, mais aussi des communes pour les dépenses d'équipement. Le même manque de concertation, de transparence, de débat démocratique pourrait imposer dans l'opacité la plus totale le recours à l'arbitraire le plus brutal, avec en prime le double langage, langue de bois et grosse ficelle. Par exemple, une onction de pommade sur les communes, petite république dans la grande, pour un éloge aux accents funèbres, puisqu'il annonce ensuite la mise à mort des communes par leur regroupement dans la hussarde, dans des intercommunales définies, selon une logique purement quantitative. Et à ce jeu du qui ose tout, comment prétendre qu'en éloignant les centres de décision des citoyens, qu'en mettant sous tutelle financière et politique les territoires, cela va clarifier pour que chacun sache qui décide, qui finance et à partir de quelles ressources. Avoir le culot d'affirmer que ce démembrement du territoire peut répondre aux inquiétudes des citoyens qui redoutent d'être délaissés par l'État en milieu rural comme les quartiers populaires. Le taux d'abstention dans ces quartiers lui a pourtant apporté une réponse sans équivoque. Car faut-il s'étonner, en le voyant relier ainsi ses engagements de candidat et faire du mauvais Sarkozy, que les millions d'électeurs qui l'ont élu en mai 2012, dans l'espoir d'un changement promis, lui tournent le dos et boudent les urnes. Faut-il s'étonner de voir la démagogie mensongère de l'extrême droite prospérer face à tant d'abandon? Certains aveux sont de taille. Le regroupement arbitraire des régions, justifié par le fait qu'elles seraient ainsi de taille européenne et capables de bâtir des stratégies territoriales. Quelle stratégie dans un cadre de compétition à tout près piloté depuis Bruxelles? Quant à la disparition des conseils généraux, à qui il reconnaît un rôle essentiel dans la solidarité et l'action sociale, il confesse qu'il ne peut être question de remettre en cause ses politiques ni les personnels qui mettent en œuvre. Alors, où sont les économies annoncées? Où sont le souci constant de la démocratie, de la solidarité, de l'efficacité dont ils se réclament pour oser justifier un tel projet de régression sociale? C'est tout l'inverse qu'ils mettent en place. Et nous entendons combattre sans répit cette classe de notre République. Je dois dire que la négligence des communistes, des élus communistes et prendre de gauche, a toujours été constante, quel que soit le gouvernement. Nous avons fortement contribué à mobiliser la loi contre la loi Sarkozy de 2010. Non, nous ne sommes pas plus étonnés que cela de ce mauvais coup contre la démocratie locale et la décentralisation, car la loi Sarkozy de 2010 et l'acte 3 de la décentralisation d'aujourd'hui s'appuient sur les mêmes rapports et les mêmes objectifs. Déconstruire l'édifice républicain, basé sur la commune et le département, pour mieux le fondre, plus personne ne s'en cache, dans le monde d'un schéma européen, des euro-régions chères aux libéraux. Alors, c'est vrai que ce discours peut être entendu, et il faut qu'il soit aussi compris. Il n'est ni archaïque, ni pessimiste. Le but de la motion que nous avons adoptée doit être de nous rassembler autour des valeurs démocratiques de la République, mais elle ne suffit pas. Ne nous cachons pas les difficultés qui sont devant nous et qui demandent à mettre le paquet, car nous savons que la charge médiatique est forte afin de décrédibiliser le rôle de l'élu et accréditer l'idée que les collectivités dépenseraient trop et n'importe comment. L'image du millefeuille a pénétré profondément l'esprit des Français. Leurs difficultés quotidiennes et déceptions sont telles que défendre l'existence du département du Conseil général n'apparaît sans doute pas comme une priorité. Et c'est justement ce que nous devons faire comprendre aux habitants. Au moment où la situation économique et sociale demande plus que jamais des mesures pour l'emploi, le pouvoir d'achat et la solidarité, le gouvernement s'acharne à vouloir détruire ce qui fonctionne et qui est si proche d'eux, de leurs besoins et de leurs préoccupations. Le département, avec lui, toutes les politiques des personnes, APA, PCH, RSA, etc., les politiques en faveur de la protection de l'enfance, de la jeunesse, de l'entretien des routes, de la construction de collèges, d'équipements publics, d'aide aux communes, aux associations du secteur culturel, économique ou social. Il y a une autre question incontournable, inhérente à la disparition programmée des conseils généraux, que ni le président de la République ni le Premier ministre n'ont abordé. Qui va absorber la dette des départements? C'est une réalité. Tout est fait pour tenir à l'écart les citoyens de la compréhension du rôle décisif que joue le Conseil général dans leur vie quotidienne. Mais nous avons des atouts. Les habitants ont déjà l'expérience de la réduction des services de l'État et de la privatisation des entreprises, EDF, GDF, La Poste, France Télécom, etc. Et les services publics qui les laissent souvent démunis, en proie au dédale des plateformes téléphoniques, des guichets d'accueil éloignés de leur bassin de vie et de la froideur du traitement de leurs problèmes. Il y a bel et bien un mouvement de résistance collective à construire, à impulser, mouvement dans lequel notre Conseil général a toute sa place. Nous devons aller à leur rencontre pour les alerter de ce qui se trame et redonner les clés nécessaires à la compréhension du fonctionnement démocratique des collectivités et de leur rôle. Or, il n'y a rien de plus dangereux pour n'importe quel pouvoir qu'un citoyen qui réfléchit et qui se mêle des choses qui le concernent directement. Pour ce faire, nous devons nous donner les moyens d'aller au-devant des habitants, des communes, de tous les acteurs concernés. Il est nécessaire de populariser ce sujet qui ne doit pas rester une affaire de spécialistes et de démonter le formatage des esprits qui s'opère notamment avec la complicité des médias. Il faut aller vers les habitants, lancer des rencontres sur ce thème, pas toujours facile à appréhender, qu'est l'organisation territoriale du pays. Pourquoi le Conseil général n'organiserait-il pas des réunions publiques décentralisées pour expliquer les missions indispensables assumées aujourd'hui par les conseils généraux et le danger citoyen que représente leur disparition? Pourquoi ne pas utiliser les réunions sur le projet des territoires qui sont en passe d'être organisées? Ce travail de pédagogie est indispensable pour le succès de la bataille que nous allons amener en faveur des départements. Dans ce but, je formule la demande que le magazine Hautes-Pyrénées consacre un numéro spécial à la réforme territoriale, comme il l'a fait pour le projet de territoire. Ce hors-série déclinerait les compétences du département en partant des préoccupations déjà et en expliquant la pertinence de l'échelon départemental pour accomplir ses missions. Nous devons favoriser les débats publics impliquant largement les citoyens et les élus. Quel élu de ce département pourrait soutenir que la disparition programmée du Conseil général ne sera pas sans impact sur son budget ou l'accompagnement des politiques qu'il met en œuvre sur son territoire? Il faudra donc nous appuyer sur nos interlocuteurs privilégiés, que sont les élus des communes, leurs associations, mais aussi les syndicats, les acteurs sociaux, économiques et associatifs avec qui nous travaillons. Et bien entendu que nos rencontres, nos débats associent les gens, des agents du département qui travaillent quotidiennement pour répondre aux attentes, aux besoins et aux difficultés des habitants des Hautes-Pyrénées et qui assument leur mission avec un grand professionnalisme et un dévouement reconnu de tous. Ces agents qui souffrent aussi également de la charge médiatique et du pouvoir qui méprisent les collectivités, le statut de fonctionnaire, la notion de la dépense publique et de service public. Nous savons qu'ils souffrent également. Excusez-moi. Enfin, nous, élus communistes et Front de gauche, continuons à penser qu'il est impossible qu'une telle remise en cause du fonctionnement démocratique de notre pays puisse se faire en catimini sans consultation des citoyens. C'est pourquoi nous exigeons que le peuple puisse, après de larges débats et une réelle concertation, se prononcer par voie de référendum. Car nous faisons confiance aux citoyens. Ils ont prouvé à maintes reprises leur capacité à dire non aux projets qu'on veut leur imposer, et souvent contre toute attente, malgré la puissance médiatique des déchaînés, comme sur le traité Maastricht, ou plus récemment sur la fusion des départements en Alsace, où les citoyens ont fait mentir tous les sondages. J'ajouterai à ce propos que la volonté récente du gouvernement de supprimer dans les textes de loi le recours au référendum en dit long sur la défiance qu'il a vis-à-vis du peuple. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce que je voulais apporter dans le débat, qui, je n'en doute pas, va s'enrichir et s'amplifier dans les semaines et les mois à venir. C'est pourquoi je me prononcerai pour la motion présentée par le groupe radical de gauche, car celle présentée par le groupe socialiste me semble aller dans l'approbation de la réforme actuellement en cours. Alors, réforme pour laquelle on utilise bien sûr le mot de modernisation, ce qui laisse tout entendre que ceux qui ne sont pas pour cette réforme ne sont pas des modernes. Ils se prononcent pour le maintien du département, mais ils ne parlent pas du Conseil général, pour le maintien du Conseil général. Ils se prononcent pour la définition de nouvelle gouvernance, c'est ce que semble faire la réforme actuelle, et défendre la situation et les compétences professionnelles des agents, mais qui seront leurs employeurs.